Voilà, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce café scientifique du 25 avril, café scientifique de l'Université de Neuchâtel. D'abord, merci à tous d'être venus, malgré le temps, malgré les autres conférences, bien entendu beaucoup moins intéressantes, et malgré le Tour de Romandie. Vous avez loupé les cyclistes en short dans la région. Avant de présenter les différents intervenants de ce café, une ou deux questions d'organisation. Donc j'espère que vous êtes tous bien installés, que vous avez eu le droit à votre café, parce que c'est le principe de base quand même de ce café scientifique. Vous avertir aussi que l'ensemble de ce café est enregistré pour la postérité, au cas où quelqu'un dirait des choses particulièrement passionnantes et intéressantes, ce dont je ne doute point, que nous puissions en avoir une trace. C'est un enregistrement audio uniquement, il n'y a pas d'enregistrement d'image. Voilà. Donc vous pouvez y aller presque anonymement. Que vous retrouvez ces enregistrements, que vous retrouvez toutes les informations sur les cafés scientifiques sur le site internet du café scientifique. En principe, si vous êtes là, c'est que vous connaissez, vous savez déjà comment y arriver. Hein, sur le site de l'Université de Neuchâtel, / café scientifique, c'est bien ça ? Oui, j'ai fait tout juste. Voilà donc la thématique de ce soir. J'ai été un peu surpris il y a quelque temps. Madame Colette Gremaud, que je remercie ici d'avoir si bien organisé cette soirée, m'a appelé en me disant « Faisons-nous l'amour comme des bêtes ?» Alors, je ne la connaissais pas, donc je n'ai pas tout de suite dit oui. Mais elle m'a dit « Voilà, c'est le titre de ce café scientifique, mais avec un point d'interrogation. » Alors effectivement, ceux qui croyaient qu'il y avait un point d'exclamation et qu'il y aurait des travaux pratiques lors de cette soirée, normalement, on devra rester au niveau de la théorie. Donc, s'il y en a qui étaient là pour la pratique, ils peuvent partir tout de suite. Non, ça va. Ah, ben, il y en a qui arrivent. C'est parfait. Donc, vaste question. Hein, si le titre de ce café scientifique avait été faites l'amour comme des bêtes, faites-vous l'amour comme des bêtes, on aurait pu faire un petit sondage, oui, non, et ça aurait été assez vite réglé. Je me suis même permis de témoigner, hein, enfin, témoigner quelques conquêtes qui auraient hurlé, oui, bien sûr. Mais nous sommes là dans un café scientifique, et c'est scientifiquement que nous allons essayer de traiter de la bagatelle, fût-elle humaine, animale ou amibienne. Donc c'est une publication du professeur Mitchell, qui ne devrait pas tarder à arriver, qui a donné l'idée de ce café, article traitant de la sexualité des amibes. Alors, je ne suis pas biologiste, donc je ne suis pas un spécialiste de l'amibe, mais en préambule, j'aimerais quand même témoigner d'une histoire que j'ai eue il y a quelques années avec une amibe. Ce n'est pas une histoire très originale, mais ça pourrait quand même donner un éclairage sur la sexualité de ces petites bêtes. Ce n'est pas une histoire très sérieuse, hein. On pourrait dire que c'est une amourette de vacances, très banale. Hein. J'étais parti en vacances, dans un pays du Sud, et une petite amie locale était de toute évidence tombée amoureuse de moi, touriste, fortunée et de passage. Elle a fait tout son possible pour me mettre le grappin dessus, et je dois l'avouer, par faiblesse de ma part probablement, je me suis laissé faire. Après 2 ou 3 verres, et surtout quelques glaçons, elle s'est emparée de moi. Alors, je vous passe les détails des quelques nuits d'hôtel et des dépendances, et dans les différentes chambres d'hôtel et dépendances. Toujours est-il qu'en 3 jours, elle m'a mis sans dessus-dessous, plus au niveau des organes que des sentiments. Donc, revenant à la raison, je me suis débarrassé de cette amie, de son petit nom Antemoeba. Quand on parle des amibes, les voilà qui arrivent. Hein. Oui, c'était son petit nom, Antemoeba Istiolica. Avec plus ou moins de classe, et depuis que je suis rentré, plus aucune nouvelle de mon ami l'amibe, pas un SMS, pas un mot, rien. Alors j'ai tendance à penser que les amibes sont uniquement intéressés par la bagatelle et très peu portés sur les sentiments. Alors depuis, rien que d'y repenser, j'ai un profond dégoût, voire un peu de nausée. Donc, je profite de l'arrivée du professeur Mitchell et de sa grande connaissance pour les amibes, de pouvoir savoir si mon histoire avec l'amibe est représentative de ce qui se passe généralement, et afin de faire remonter un peu l'amibe, non pas dans mon système digestif, mais dans mon estime. Alors, pour commencer cette soirée, je vous propose un petit tour de table, et chacun veut peut-être de faire passer autour des présentations, et à tout seigneur, tout honneur, puisque vous êtes le responsable de cette soirée, on va dire comme ça. J'aimerais passer la parole au professeur Edward Mitchell, qui est professeur de biologie du sol et spécialiste des amibes à l'Université de Neuchâtel, c'est bien juste. Voilà. Et de nous dire, ces amibes, un ou deux mots déjà peut-être de présentation.
Oui, d'accord. D'abord, excusez-moi pour le retard. Effectivement, donc, je suis un peu par hasard, comme beaucoup de choses dans la vie, devenu un peu spécialiste, même beaucoup spécialiste des amibes. Donc, je suis professeur de biologie du sol ici à l'Université de Neuchâtel. J'ai en fait fait toutes mes études ici à Neuchâtel, biologie, le diplôme, la thèse. Ensuite, parti à l'étranger, revenu, enfin le schéma classique. Et en fait, ces amibes, au début, je ne m'y intéressais pas en tant qu'organisme, mais uniquement pour ce qu'elles pouvaient nous apporter comme information sur l'environnement. Voilà. Je les observais au microscope et j'étais intéressé de savoir comment ces amibes pouvaient nous aider, en particulier à reconstruire l'histoire des climats. C'était des amibes particulières, des amibes qui font une coquille, et ces coquilles sont préservées dans la tourbe et dans les sédiments lacustres. Donc la seule chose qui nous intéressait finalement, c'était de connaître ces différentes espèces, savoir dans quelles conditions elles vivent aujourd'hui, pour pouvoir retracer l'histoire de l'évolution du climat, des tourbières, des conditions écologiques des tourbières sur les dernières 10 000 années de la période de l'Holocène. Et puis, en fait, bon, ça, c'était un peu le départ, mais finalement, à force de les regarder, d'abord, je les ai déjà trouvés très esthétiques. Ça, c'est vraiment quelque chose de... Quand on commence à regarder des micro-organismes au microscope, on se rend compte qu'il y a un monde absolument méconnu, des morphologies à couper le souffle. Certaines font franchement peur, d'autres sont vraiment tout simplement belles. Donc voilà, ça c'est la première chose qui m'a frappé. Et puis finalement, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne connaissait pas sur ces organismes. La première chose qu'on ne connaissait pas bien, c'était leur taxonomie. Très difficile, c'est très difficile de mettre un nom sur une amibe quand vous la regardez au microscope. Et là, en fait... Il y a des raisons objectives à ça, c'est que peu de gens les étudient. Les raisons objectives, c'est qu'effectivement, c'est difficile de voir les critères, parce que pour des raisons simplement méthodologiques, les outils ne sont pas forcément à disposition. Il faudrait faire de la microscopie électronique à balayage, par exemple, pour voir les détails subtils. Et puis des questions plutôt... subjective, simplement c'est petit, c'est pas forcément des pathogènes, donc personne s'y intéresse, donc on les connaît mal, etc. Donc c'est un peu ce problème-là. Voilà. Donc du coup, de fil en aiguille, je me suis intéressé à beaucoup de choses. Les événements et la chance aidant petit à petit constituent un groupe de recherche, ce qui fait que maintenant on touche à beaucoup de choses autour de ces amibes, leur diversité, leur biogéographie, est-ce que les mêmes amibes se trouvent en Europe et en Amérique du Nord, et finalement leur sexualité. Donc voilà ce qui nous amène ici, c'est finalement les directions un peu aléatoires que peuvent prendre la recherche en partant d'un premier point, d'un premier accrochage, et puis ensuite en partant dans différentes directions, tels les pseudopodes d'une amibe qui partent à gauche, à droite.
Voilà. D'accord, merci. Alors comme ça, on est un petit peu plus au clair pour pourquoi tout à coup vous êtes tombé comme ça dans l'obsession sexuelle de l'amibe. Pour faire le tour de table, je propose, je me suis creusé la tête pour savoir dans quel sens ou dans quel ordre j'allais présenter les gens. Je me suis dit, on va aller du plus petit au plus grand. Donc si j'ai bien compris, donc, les amibes, je pense qu'on est vraiment dans le plus petit. Et on va plutôt passer vers les poissons, hein, l'étage d'en dessus avec le professeur Redouan Bchari, je prononce juste. Voilà, qui est professeur d'éco-éthologie ici à l'Université de Neuchâtel.
Donc, bonsoir. Je suis nationalité allemande, comme mon collègue a commencé comme ça, mais le nom, c'est marocain, donc je suis déjà un mélange assez intéressant au niveau génétique. Et je m'intéresse à l'écologie comportementale, donc je veux comprendre le comportement des animaux comme adaptation à leur milieu naturel, donc à leur écologie. Et dans ce sens-là, n'importe quel comportement animal, en principe, ça m'intéresse, mais évidemment, on est plus spécialisé et ce qui m'intéresse le plus dans la recherche, c'est l'évolution de la coopération. Donc, ce n'est pas nécessairement la reproduction, la sélection sexuelle, mais évidemment, comme j'enseigne ça aussi dans mes cours, peut-être je peux répondre à quelques de vos questions ce soir.
Merci. Pour continuer le tour de table, en montant encore d'une taille, en passant plutôt alors, du côté des primates, enfin pas pour vous, hein, mais pour le spécialiste des primates, en passant la parole là, au professeur Klaus Zuber-Bühler, je pense juste, qui est professeur de primatologie à l'Université de Neuchâtel.
Oui, bonsoir. J'ai juste commencé mon poste ici à Neuchâtel en mars, donc je suis le plus jeune, peut-être. J'ai vécu en Écosse avant, j'ai enseigné à l'Université de St. Andrews comme professeur en psychologie. Et maintenant, je suis dans un institut de biologie, donc ça peut vous dire que mes intérêts sont vraiment entre les deux. Et on étudie les primates au terrain. Nous avons plusieurs projets, principalement en Afrique. Il y a un projet en Ouganda où nous avons un groupe de chimpanzés et on les suit chaque jour. On fait des observations et aussi des petites expériences vraiment pour comprendre la communication. C'est la communication qui m'intéresse et la cognition des primates parce que c'est un modèle qui peut nous expliquer un peu comment l'évolution de l'homme se passe. Un deuxième projet que nous avons, c'est en Côte d'Ivoire. Là, nous avons plusieurs espèces de singes. Et Redouane, il a aussi travaillé là-bas, donc on se connaît de nos travaux en Côte d'Ivoire. Et là, ce sont des singes qui sont un peu moins proches à l'homme, mais quand même, il y a une histoire phylogénétique qui nous joint. Et mon intérêt dans la sexualité n'est pas principal, mais... bien sûr, la reproduction, c'est un aspect très, très important pour les animaux. Et il y a aussi beaucoup de communication qui se passe dans ce contexte. Et on a fait quelques études, principalement sur les cris de copulation que les singes poussent aussi comme l'homme. Et donc, peut-être je peux parler de ça après, je sais pas.
Merci. Voilà, alors on va pouvoir avoir différents niveaux de réflexion sur le sujet. Et puis on va quand même arriver à la présence féminine de la soirée quand même. pour parler plutôt des humains, on va dire dans ce sens-là, avec Cynthia Krauss, qui est maître d'enseignement et de recherche en études de genre et en études sociales des sciences à l'Université de Lausanne. J'ai dit juste.
Oui, bonsoir à toutes et à tous. Alors en fait, je suis aussi peut-être la représentante, entre guillemets, des sciences sociales et des sciences humaines. Je suis philosophe des sciences de formation et j'enseigne alors dans le cursus des sciences sociales à la faculté des sciences sociales et politiques. Donc plus du côté des lettres, mais c'est, disons, ma formation d'origine. Et je travaille sur des questions qui ont trait aux normes. Il s'agit de normes sociales, culturelles, des normes aussi touchant au corps, aux idéaux du corps, par exemple. Qu'est-ce qui nous qualifie comme homme, qu'est-ce qui nous qualifie comme femme. Il y a des normes à la fois en termes de comportement, enfin c'est très variable, il y a différents niveaux biologiques qui sont considérés. Je m'intéresse en particulier à la biologie et à la génétique du développement du sexe. Donc c'est pas tellement le sexe au sens de la sexualité des amibes, mais ça c'est peut-être une des choses sur lesquelles on pourra revenir. C'est plutôt la formation de du premier dimorphisme sexuel durant le développement prénatal. Et je me suis intéressée en particulier à ce processus chez les humains et aussi, pour revenir à un organisme beaucoup plus petit, la mouche à vinaigre, donc la mouche qu'on trouve dans nos cuisines. Mais évidemment, en laboratoire, elle a subi toutes sortes de modification. Je travaille aussi sur la clinique de ce qu'on appelle la clinique de l'identité de genre, alors avec deux grands, situations cliniques, la clinique de l'intersexualité ou d'enfants qui naissent avec des organes génitaux qui ne sont pas typiquement mâles ou femelles, c'est-à-dire qu'on ne peut pas déterminer sans une série d'examens, hein, c'est comme ça que les médecins définiraient la question de l'intersexuation aujourd'hui. On ne peut pas assigner un sexe à un enfant sans des examens complémentaires. C'est-à-dire que le coup d'œil américain ne marche pas dans toutes les situations, ce qui nous amène évidemment à nous interroger à toutes ces situations normales, non problématiques, où l'on peut, croit-on, on le fait en effet, assigner un sexe à un individu. Et puis il y a aussi un autre domaine qui m'intéresse particulièrement parce que machine à produire de la différence sexuelle, c'est les neurosciences avec des cerveaux féminins, masculins, gays, transsexuels, intersexués. Voilà.
Eh bien, merci. On s'en a fait un petit tour d'horizon en partant du plus petit en allant au plus grand. Alors, le principe de ce café scientifique, je ne l'ai pas encore dit, hein, mais c'est plutôt que chacun, plutôt que demander à chacun de faire une partie précise de présentation, c'est de se dire, rebondissons sur les questions du public, au vu de ce que savent nos différents intervenants, qu'est-ce que vous avez envie de savoir. Donc n'hésitez pas à tout moment, le geste est très simple, le plus simple c'est que vous leviez la main, hein. Moi je vous envoie Colette Gremaud comme ça avec un micro, vous puissiez poser la question, qu'on puisse commencer le développement comme ça. Alors peut-être juste pour lancer la soirée, il y a une question qui me taraude depuis quelques temps, que je vais poser au professeur Mitchell, c'est ses amis, est-ce que c'est vraiment des bêtes de sexe ou pas alors?
Alors, la réponse est oui, mais c'est paradoxal, parce qu'en fait, le dogme, c'est plutôt de penser que ce ne sont justement pas des bêtes de sexe, qu'elles se reproduisent principalement par division binaire, par mitose, et que finalement, ce sont des êtres absolument chastes. Mais, et c'était justement le but de l'étude qu'on a publiée l'année passée et qui a suscité beaucoup d'intérêt dans les médias finalement, c'était en creusant un peu la littérature, on se rend compte que finalement, passablement de gens ont observé des phénomènes de sexualité chez des amibes, conjugaison de deux amibes, fusion de leur cytoplasme, fusion nucléaire, méiose, enfin, toutes les étapes finalement d'une reproduction sexuée. Et donc, au lieu de penser que les amibes sont des êtres chastes, ce qu'on propose, c'est plutôt de les considérer comme des êtres sexuels jusqu'à preuve du contraire, et non pas l'inverse, de les considérer comme des êtres chastes jusqu'à preuve du contraire. Donc voilà, ça a un peu secoué le cocotier. Et puis, bon, ça a des implications parce que finalement, les amibes, il y en a partout dans l'arbre du vivant. L'arbre du vivant, notamment l'arbre des eucaryotes, a passablement été chamboulé ces 10-20 dernières années. Et donc, si on a des amibes sexuelles dans toutes les branches de l'arbre du vivant, ça veut probablement dire que le premier eucaryote, la première cellule eucaryote, donc avec un noyau comme nos cellules, se reproduisait, ou avait en tout cas dans son cycle de vie très vraisemblablement, une partie de cycle sexué. Donc ça, c'est quelque chose d'assez fondamental au niveau conceptuel. Ça remet en question, je dirais, pas mal de choses dans l'évolution des eucaryotes.
Merci. Est-ce que ça suscite quelques questions déjà dans la salle où tout le monde est atterré terriblement? Oui.
Si personne n'a de questions, moi j'en aurais une. J'aimerais savoir si ça correspond toujours, cette idée qu'on a que le sexe est séparé, en tout cas chez l'homme avec XY c'est un homme, XX c'est une femme, ou est-ce qu'il arrive des fois qu'on ait un XXX qui soit, alors je ne sais plus, un homme, une femme, peut-être Madame Krause, c'est ça, ou... Est-ce qu'il y a vraiment une correspondance entre les chromosomes sexuels XY, XX? Est-ce que c'est toujours XX une femme et puis XY un homme, ou des fois pas?
Alors la réponse à votre question très clairement, c'est non. Il y a plusieurs... Alors là, on se situe à un seul niveau, qui est le niveau des chromosomes. Et c'est un niveau biologique parmi d'autres. Et ce n'est pas toujours le niveau biologique le plus pertinent pour pouvoir comprendre à un niveau clinique et même biologique ce qui s'est passé, à quel moment, et qui explique la morphologie interne et externe d'un enfant qui serait justement pas typique au niveau de sa morphologie, en particulier génitale. Ça, c'est aussi quelque chose d'assez particulier, je dirais, aux humains, et je ne pense pas qu'on le retrouve aux amibes, au niveau des amibes, ce qui me permet peut-être de poser une question à mon collègue sur la droite, qui est une question, en fait, il me semble, je ne sais pas si... Enfin, une des manières dont je poserai la question, en fait, du sexe en lien avec ce domaine de savoir qui sont les sciences du vivant. Alors aujourd'hui, c'est en lien avec la clinique, y compris la clinique de type les sciences psychologiques. Mais dans votre article, à un moment donné, enfin, il y a deux questions. La première, c'est est-ce que parler de sexe, c'est une question que je vous avais déjà posée par téléphone, à vrai dire, donc là, on fait un peu de la répétition, enfin. Est-ce que parler de sexe est une bonne façon de décrire ce que font les amibes? Ce qui pose toute la question du langage qu'on utilise pour parler de phénomènes et de phénomènes scientifiques, hein, de phénomènes observables, disons. Quel langage peut-on utiliser? Là, typiquement, on a un langage qu'on a visé descriptif. Maintenant, évidemment, le descriptif n'est pas jamais purement descriptif. Ça fait plein d'autres choses aussi. Et ça, c'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que dire que les amibes ont une sexualité est une bonne façon de décrire comment les amibes échangent du matériel génétique? Ou bien est-ce que c'est une bonne façon, à un certain moment, de communiquer? Donc là, on est à un autre niveau, on est au niveau d'une certaine façon de faire circuler des savoirs en essayant de les rendre plus sexy que malheureusement, vous avez dit tout à l'heure, il y a peu de gens qui s'intéressent aux amibes, c'est fort dommage. Maintenant, est-ce que en parlant de sexualité et en rendant sexy de cette manière ces sciences-là, dans une visée que je trouve intéressante, qui est une façon d'interroger aussi la hiérarchie qu'il y a entre certains organismes, entre certains savoirs aussi, une hiérarchie qui est à la fois, enfin ça va vraiment au niveau d'allocation des ressources, mais aussi quels sont les organismes qui sont jugés les plus intéressants pour nous apprendre des choses, par exemple sur l'origine de la vie, l'origine de la société. Parce que finalement, dans toutes ces recherches en biologie, pas seulement lorsqu'on s'intéresse aux humains, un des grands projets, c'est de raconter quelque chose ou de raconter une histoire sur nos origines ou sur le début de quelque chose. Donc ça, c'est une première question. La deuxième, je peux juste dire ?
Oui, d'accord.
C'est parce que ça fait le lien entre les sciences sociales et les sciences du vivant. Dans votre article, j'ai remarqué, je crois que c'était à la fin, c'est que autant vous n'hésitez pas à parler de chasteté, de Kama Sutra, etc. Par contre, et j'étais tout à fait ravie, vous mettez mâle et femelle entre guillemets. Je pense que c'est très juste de le faire. Et peut-être, est-ce que vous pourriez nous expliquer, parce que finalement, ça, c'est aussi une des questions majeures, c'est-à-dire, lorsqu'on parle de sexualité des amibes, un problème du point de vue des sciences sociales, c'est que évidemment on imagine qu'il y a des amibes mâles et femelles, comme chez, vous voyez tout ce qu'on peut imaginer.
Voilà. Alors, plusieurs questions à plusieurs niveaux, effectivement. Premièrement, effectivement, au niveau de ce que ça peut nous apporter en termes de remise en question, de réflexion. Je pense que c'est quelque chose d'assez fondamental. Il faut effectivement, je pense, laisser de côté certains a priori et puis peut-être reconsidérer certains dogmes, justement. Donc le but de cette étude, c'était justement de reconsidérer un dogme. Mais je pense qu'on peut très bien établir un lien entre ce qu'on est amené maintenant à découvrir au niveau des amibes et puis, par exemple, le comportement humain en étudiant le comportement des grands singes. Plus on les étudie, les grands singes, plus on se rend compte que finalement, beaucoup de caractéristiques comportementales qu'on considérait comme étant propres de l'homme, on les partage en fait avec les grands singes. Donc en fait, la limite entre l'homme et le singe est sans cesse repoussée. Et puis, de même, au niveau des amibes, il y a un certain nombre de limites qui sont également repoussées. Alors, c'est vrai qu'il y a un peu un paradoxe dans le sens où on considérait ces amibes comme étant chastes, et on se rend compte qu'en fait, elles ont une sexualité totalement débridée, elles ont des types, enfin, on peut dire, en tout cas, parmi toutes les amibes, si on cherche bien, on trouvera certainement des cas de figure où il y a non pas deux sexes, mais un certain nombre. Donc vous pouvez imaginer ce que ça donnerait dans notre société s'il n'y avait pas juste deux sexes, mais s'il y en avait cinq. Ça donnerait peut-être des choses assez intéressantes. Donc ça amène évidemment à fantasmer sur pas mal de choses. Je dirais que si leur sexualité est débridée, je pense que leur âme est pure.
Et je crois que M. Jarry, vous vouliez rebondir.
Donc, pour aussi répondre à votre question, donc chez les mammifères, généralement, c'est vrai que XY, c'est le mâle et XX, c'est la femelle. Mais ça, ce n'est pas standard dans le monde animal. Donc, chez les oiseaux, c'est la femelle qui est hétérozygote et le mâle qui est homozygote, qui a beaucoup des implications parce qu'une femelle oiseau a beaucoup... C'est plus simple pour une femelle oiseau de déterminer si son enfant soit femelle ou mâle.
Et juste vous expliquer hétérozygote ou bien homozygote, je ne sais pas si...
Oui. Donc XX, c'est homozygote parce qu'on a deux fois le même. XY, c'est hétérozygote parce qu'on a deux différents chromosomes. Et chez les mammifères, c'est le mâle qui a deux chromosomes différents. Chez les oiseaux, c'est la femelle qui a deux chromosomes différents. Et c'est pour ça, chez les oiseaux, la femelle peut décider, et on ne sait pas du tout comment, mais elle peut décider... Cette saison-là, il y a beaucoup de nourriture, je veux des mâles ou je veux une femelle, et elle peut biaiser les ratios de sexe en son faveur, selon l'environnement. Et ça, ce n'est pas vraiment possible pour une mammifère, une femelle mammifère, parce que c'est le mâle qui ajoute son sperme, et c'est plus difficile de sélectionner à ce niveau. Donc ça sont les oiseaux. Chez les poissons, souvent, il n'y a pas de chromosomes de sexe. Et les poissons nettoyeurs que j'étudie, ils commencent tous leur carrière sexuelle comme femelles. Et seulement quand on devient grand et on peut monopoliser un harem de femelles, on change le sexe et on devient mâle. Chez les poissons clunes, donc Petit Nemo, c'est faux. L'histoire est faux parce que c'est la petite adulte qui meurt et le grand adulte qui survit et qui s'occupe du fils. Et le grand adulte chez les poissons clunes, c'est la femelle. Donc c'est le plus grand individu qui change le sexe et devient femelle. Après, chez les reptiles, il y a la température qui est importante. Donc une tortue qui pond des œufs dans le sable, ça dépend maintenant de la température, si ça devient mâle ou femelle. Donc il y a plein de différents mécanismes de déterminer le sexe chez les animaux. Et si on veut maintenant dire qu'est-ce que c'est une femelle et qu'est-ce que c'est un mâle, il y a deux différentes grandes théories dans la théorie d'évolution. Un, c'est simplement la définition, c'est la taille du gamète. Une femelle a des grands gamètes et peu, et un mâle a des petits gamètes
juste
et beaucoup.
Juste pour les gens comme moi, une gamète, comme ça, en deux mots.
Des spermes, des œufs. Donc... S'ils sont grands, c'est une femelle. S'ils sont petits et normalement mobiles, c'est un mâle. Ou bien, il y a un autre conflit au niveau génétique qui est très important. Et ça, c'est les organelles, les mitochondries, les petits trucs dans les cellules qui génèrent l'énergie. Vous avez tous les mitochondries de votre mère. Donc, on peut aussi dire que le sexe femelle, c'est le sexe qui donne les mitochondries, les organelles pour la prochaine génération. Et le sexe mâle, c'est le sexe où les mitochondries seront perdues. Parce que ça, c'est un conflit génétique qu'on doit résoudre et on peut le bien résoudre avec deux sexes.
D'accord. Ça me fait penser que c'est peut-être biologique le fait que ce sont des femelles qui s'occupent du nettoyage. Mais... Non.
Ah, bonsoir. Alors, j'ai deux questions. Elles vont plus ou moins dans le même sens. La première reprend une phrase que j'ai pas bien saisi en fait du professeur Mitchell par rapport aux cinq sexes. Bon, c'était peut-être un exemple, mais donc je n'ai pas bien compris si dans le monde animal, particulièrement dans les amibes, on a la possibilité d'avoir plus que deux sexes. Ça, j'ai pas bien compris. Ça, c'est la première question. Et la deuxième, c'est un peu plus large. Donc, j'étais en octobre au Festival de la Science à Gênes, en Italie, où je collabore souvent, disons. Et j'ai pas, justement, pour à cause du travail, j'ai pas pu aller à une conférence qui s'était, disons, assez pareil. Je m'appelle plus exactement le titre, mais le thème, c'était justement c'était sexe sauvage. Et donc c'était voilà une comparaison avec donc un niveau sexuel entre l'homme et les animaux. Et j'ai pu entendre un peu des choses par rapport au conte que les gens qui étaient présents m'ont fait. Mais une question à laquelle ils n'ont pas pu répondre, c'était la suivante. Quelle est donc si on peut faire une comparaison entre les pratiques sexuelles de l'homme et des animaux, et donc évidemment c'est plus probablement une comparaison au niveau pas des amibes, plutôt des primates, donc s'il y a des pratiques sexuelles qui sont typiquement humaines ou typiquement animales, donc qu'on ne trouve pas, dans lesquelles on peut pas faire vraiment dans lesquelles on peut faire une différence, qui sont typiques. Et donc, avant, le professeur Chari parlait de la transsexualité, en fait, chez les animaux. Alors, on peut parler aussi d'autres peculiarités de la sexualité.
Peut-être le professeur Mitchell, alors, peut répondre à la première partie, et
absolument.
Le professeur Soubervulaire à la deuxième partie.
Donc effectivement, il y a chez certains groupes d'amibes plus que deux sexes. En fait, on parle plutôt de mating types, donc de type d'accouplement. Enfin, mais vous conviendrez que si on met mating type dans le titre d'un article au lieu de sexe, je pense qu'aujourd'hui, il y aurait peut-être eu 3 personnes au lieu de 30. Donc effectivement, c'est peut-être racoleur d'utiliser le terme sexe, mais bon, en fait, fondamentalement, c'est une question de définition. Mais effectivement, il y a chez certains organismes plus que deux types différents. Donc il en faut deux différents pour que la recombinaison puisse se faire, mais ça peut être le numéro 1 avec le 2, ou le 2 avec le 3, ou le 1 avec le 3, et ainsi de suite, quoi. Donc ça donne effectivement plus de flexibilité, plus de configuration possible. Après, pour autant que je sache, mais franchement c'est pas exactement ma spécialité, ça a l'air d'être plutôt rare ce genre de cas de figure. Mais est-ce que c'est rare parce qu'on les a mal étudiés ou peu étudiés? Ça c'est peut-être un peu une question ouverte. A priori je dirais que c'est quand même plutôt rare, mais peut-être que mes collègues auront plus d'informations à ce sujet.
Et donc on peut arriver à 5.
On peut arriver à 20.
À 20 même.
Oui, donc ça sont des bactéries très intéressantes qui attaquent ou vivent avec des insectes. Wolbachia, c'est le nom. Et là, on a identifié 20 différents types. Et il y a des drôles choses de compatibilité, oui. Donc le 1 est compatible avec 3, 7, 8, 9. Et le 2 est compatible avec 7, 10, 11. Donc, c'est pour ça qu'on peut dire vraiment différents sexes, ils sont définis comme avec leur compatibilité. Et normalement, avec deux, on peut simplement dire un mâle et un femelle, les gamètes sont compatibles, c'est pour ça qu'on dit qu'il y a deux sexes. Et mâle-mâle, ça ne donne pas de prochaine génération, femelle-femelle, ça ne donne pas. Et maintenant, chez ces bactéries-là, il y a 20 différents types avec plein de combinaisons.
Juste pour rebondir, peut-être chez les humains, c'est vraiment sûr qu'il n'y a que deux?
Non, justement, disons, c'est un enjeu. Hein, c'est un enjeu de savoir, il y a combien de sexes. Alors, on peut dire, il y en a deux, et puis tout ce qui n'entre pas parfaitement dans ces deux catégories, c'est de l'ordre du bizarre, c'est de l'ordre du pathologique, c'est de l'ordre de l'anormal. où on peut interroger justement ces cas sous un angle qui est un tout petit peu différent et qui s'approche au fond de la manière dont les biologiques interrogent la question de la diversité ou en tout cas de la variations. C'est-à-dire que, comme le dirait un philosophe des sciences, alors version vraiment classique, Georges Canguilhem, les normes, elles sont aussi constituées par rapport, ou plutôt, il y a toutes sortes de variations par rapport aux normes. Et un des enjeux, c'est justement, quel est le rapport entre ces normes constituées, qui peuvent être des normes au niveau du vivant, qui peuvent être des normes au niveau de prescription sociale aussi. C'est-à-dire, est-ce que ça nous fait aller dans le sens de l'anormal, c'est-à-dire quelque chose qui pourrait être du côté du hors-norme, hein, ou quelque chose qui est anormal, où là, on a quelque chose de très clairement prescriptif aussi, avec toute une série d'interdits, de sanctions, d'efforts qui sont faits pour renormaliser. Alors là, en l'occurrence, les corps qui n'entrent pas dans ces deux catégories. On pourrait dire qu'il y en a trois. Homme, femme, hermaphrodite ou intersexe, troisième sexe. Alors sachez si jamais que troisième sexe n'est jamais une revendication des personnes intersexuées, donc pour qui il est difficile à la naissance de déterminer si elles sont garçons ou filles. Et puis, malgré des cas où vous avez peut-être vu dans les journaux, par exemple au Népal, on a introduit une troisième catégorie de sexe au niveau d'un certain document. Même chose aussi pour les documents de voyage, donc le passeport en Australie, qui est lié cette fois-ci avec un projet de faciliter les déplacements des personnes qui sont en transition, donc des personnes transsexuelles, qui sont en train de changer de sexe. Alors, si, voilà. Et ça complique, évidemment, si sur mon passeport, je suis, la catégorie F est marquée dessus, et je voyage, et je suis en transition pour devenir un homme, eh bien, je peux avoir des soucis au niveau de la douane. Alors voilà, ça sert à ça, n'empêche qu'au niveau de l'état civil, je suis toujours une femme. Hein. Ça, c'est encore un autre acte pour pouvoir le changer. Donc voilà, moi, je dirais en gros, c'est un enjeu. Et puis, c'est un enjeu aussi de démocratie sexuelle, précisément, de savoir combien de sexes, homme ou femme, est-ce que c'est la seule possibilité. Et puis, une fois qu'on a dit ça, on n'a encore rien dit, on est au tout début de dire quelque chose sur les pratiques et les comportements sexuels aussi.
Merci. On va peut-être rebondir sur la deuxième partie de votre question, dont je dois dire, j'avais oublié la finalité, c'était au niveau des pratiques sexuelles, c'est ça ?
Oui, oui, justement. Sexe oral, orgie ou autre chose, voilà. Masturbation.
Voilà, merci pour ça. Ce que peut voir chez les primates, c'est que il y a une relation entre le système social et la sexualité qui est très forte. Donc, il y a des espèces qui vivent dans un système monogame, comme chez nous à l'Ouest. Et là, normalement, il y a une femelle et un mâle qui forment une unité pour plusieurs années. Normalement, il y a aussi, comme chez nous, il y a des affaires avec les voisins et tout ça. Les gibbons sont l'exemple plus fameux pour ça. Chez les chimpanzés, c'est complètement différent. Il y a plusieurs mâles et plusieurs femelles qui forment un groupe. Et là, normalement, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas vraiment des relations profond entre les mâles et les femelles. Les femelles s'occupent des enfants, ils voyagent seuls normalement avec les enfants, et les mâles sont ensemble. Et quand une femelle devient dans un état de fertilité, il y a un gonflement, on peut voir ça facilement, les mâles s'intéressent et ils commencent il y a des compétitions qui peuvent copuler avec ce femelle et tout ça, et les femelles essayent de copuler avec le plus mâle que possible. Donc voilà l'orgie pour vous.
Et c'est vraiment, mais c'est vraiment une stratégie biologique pour perturber la certitude de paternité pour la femelle. Parce que pour une femelle, c'est très important que quand elle a son enfant, que les mâles ne sont pas agressifs contre le petit. Et si d'où les mâles ont copulé avec ces femelles, ça baisse l'agression normalement. Et comme ça, on pense que ce qu'on observe dans ce type de groupe, c'est vraiment une stratégie de femelle d'augmenter ses bénéfices. Puis, il y a des autres systèmes. Beaucoup de singes vivent dans un système avec un mâle et plusieurs femelles. Et là, normalement, les femelles sont liées. Ce sont des sœurs, grand-mères et tout ça qui sont génétiquement proches. Et le mâle vient pour quelques années, puis il va remplacer par un autre. Donc, c'est le mâle qui change toujours. Et là aussi, bien sûr, il y a de sexualité, mais on n'observe pas vraiment des relations intimes entre les deux sexes. Et puis, finalement, il y a les bonobos. Peut-être vous connaissez cette espèce. Il ressemble beaucoup aux chimpanzés, mais c'est une espèce distinctive. C'est différent des chimpanzés. Ils sont séparés il y a 1 million d'années, donc ils sont séparés. Ils habitent au Congo. Et là, on trouve que les femelles font des relations entre eux. Ils sont des alliances qu'ils font. Et là aussi, la sexualité joue un rôle très important. Donc il y a sexualité homosexuelle, si vous voulez. Les femelles se touche et tout ça. Et là, on pense que la fonction est vraiment pour établir les relations sociales entre les femelles. Donc la sexualité fonctionne dans une manière sociale encore. Donc c'est vraiment cette relation entre le système social et la sexualité qui on trouve partout. Et moi, je pense que chez l'homme, c'est un peu la même chose. Nous avons la capacité de former des relations très profondes entre nous. On se connaît. C'est vraiment une qualité qu'on trouve pas probablement chez les animaux. Et en même temps aussi, on trouve ça dans la sexualité. C'est pas seulement le sexe. C'est aussi une expression d'une relation normalement.
C'est intéressant de voir que si les femelles multiplient les partenaires pour faire baisser l'agressivité, ce n'est pas tout à fait la même chose chez les humains. Mais... Et vous voulez réagir aussi, M.
Bachary? Oui, je vais juste donner quelques drôles d'exemples. Donc, par exemple, chez les invertébrés, il y a pas mal des espèces où le mâle, quand il trouve une femelle, normalement la femelle n'est pas trop intéressée. Et donc, ce que le mâle fait, il fait juste un trou dans le corps de la femelle, il injecte son sperme là, et après c'est le sperme qui doit retrouver les organes sexuels de la femelle. Il y a des petits... c'est aussi des invertébrés marins qui... Parce qu'on est blessé, ils sont des hermaphrodites simultanés. Donc, et c'est beaucoup mieux d'être un mâle et insérer son sperme dans le corps du partenaire. Donc, on observe du penis fencing, c'est appelé, que les deux sont en face et on essaie de toucher l'autre sans être touché soi-même. Donc, on peut insérer son sperme sans être blessé soi-même. Ça fait juste 2 ans, il y a un prix Ig Nobel. Donc, ça, c'est une alternative au prix Nobel, mais il y a une commission de chercheurs très connus qui vont choisir les études les moins utiles, mais drôles en même temps de l'année passée. Et donc, il y avait une équipe japonaise qui a gagné ce prix-là parce qu'ils ont démontré chez des chauves-souris que pendant la copulation, la femelle fait les fellations en même temps. Avec son temps, il touche les pénis, etc., du mâle. Ils ont démontré que ça prolonge la copulation et aussi le nombre de spermes qui est transféré. Donc, ils ont reçu le prix Nobel pour cette étude-là. Donc, il y a plein de drôles exemples chez les animaux. Une chose que je n'ai jamais trouvée, et ça c'est quand même assez intéressant, c'est la contraception. Donc, normalement, chez les animaux, s'il y a la copulation, normalement, il y a quelque chose plus tard. Et ça, c'est assez... unique, semble-t-il, chez l'homme. Donc, je sais pas, j'espère pas qu'il y a trop de catholiques ici, mais évidemment, on pourra dire maintenant que le pape, il veut nous prendre ce qui nous fait humaines à ce niveau-là.
Alors là, je vais rebondir directement là-dessus, parce que je pense que le pape pourrait prendre les amibes comme exemple. Et parce qu'en fait, reproduction et sexualité sont justement séparées chez beaucoup d'amibes. Elles peuvent se reproduire, c'est-à-dire se diviser effectivement de manière non sexuée. Et par contre, elles peuvent échanger du matériel génétique, c'est-à-dire avoir une forme de sexualité, mais sans se reproduire. Donc finalement, il y a déjà, on croit qu'on a inventé la révolution sexuelle dans les années 60, mais les amibes avaient déjà inventé ça il y a plus de 2 milliards d'années.
Oui, une question.
Oui, j'aimerais savoir, quand vous parlez de ces échanges génétiques ou de cette forme de sexualité chez les amibes, pourquoi est-ce qu'ils font ça? Est-ce qu'il y a un intérêt? Est-ce que c'est le brassage génétique, l'intérêt?
Elles s'ennuient comme ça, les longues soirées d'hiver.
Et ma deuxième question, ça serait de savoir s'il y a chez les animaux, ou est-ce qu'on peut mesurer ce genre de choses, s'il y a une notion de plaisir?
Alors, pour la raison, effectivement, c'est la raison qui est toujours invoquée, c'est la recombinaison génétique, donc génération de diversité qui donne à l'organisme un plus grand pouvoir d'adaptation à son environnement. Très résumé.
Et plaisir qui veut...
Bon, évidemment, ce n'est pas une question facile parce qu'on ne peut pas les demander directement. Mais on sait évidemment que des animaux peuvent facilement apprendre avec des, on appelle ça, renforceurs positifs ou négatifs. Donc ça, c'est le conditionnement standard qu'un animal fait une action et si les conséquences sont positives, l'animal va faire ce comportement souvent de nouveau dans l'avenir, et si les conséquences sont négatives, il va abandonner ce comportement. Et dans ce sens-là, le fait que les animaux cherchent des interactions sexuelles implique clairement que c'est un renforceur positif. Qu'est-ce qu'ils ont comme sentiment? Ouf, ça c'est vraiment une question difficile à répondre. Mais je suis sûr, un mâle aussi, les femelles, sous certaines conditions, elles sont vraiment prêtes de travailler pour avoir accès à un partenaire. Donc, ils sont vraiment motivés de faire ça.
Quelqu'un va apporter un complément sur les sentiments? On est plus technique, hein, c'est un café scientifique. C'est bon. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, ici, il y avait une question là.
Juste une question, un brin provocatrice. On entend dire souvent, entre mâles, que celui-ci est une bête de sexe. Est-ce dire que la sexualité des animaux est plus riche que celle des humains?
Alors, est-elle plus riche? On commence par quoi? On commence par les amibes?
Oui, non, mais là, parce qu'il a été fait mention de sexe oral avant, donc là, il y a quand même une chose qu'il faut que je ne peux pas passer à côté. Ce n'est pas les amibes, c'est les ciliés, un autre groupe de protozoaires. Si vous connaissez, vous avez peut-être déjà entendu parler de la paramécie, et si vous avez en tête l'image de la paramécie, elle a un corps, sa cellule est recouverte de cils, et elle a un endroit, un appareil buccal, par lequel elle consomme ses proies. Et en fait, les ciliés, quand les ciliés font la reproduction sexuée, ce qu'on appelle la conjugaison, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent appareil buccal contre appareil buccal. Et c'est le seul moyen qu'elles ont de faire de la reproduction de la sexualité. Donc on peut dire que chez les ciliés, le seul sexe que les ciliés connaissent, c'est le sexe oral. Voilà.
C'est un peu racoleux.
C'est un French kiss,
plutôt. Je pense, si on prend tout le monde animal, il y a plus de diversité que chez nous, mais si on prend n'importe quelle espèce, je pense quand même que chez nous, c'est plus divers que ce qu'on connaît, sauf peut-être le bonobo qui est le plus proche. Mais autrement, chaque histoire que j'ai racontée, c'est sur une autre espèce. Et maintenant, chez nous, c'est clair, si on prend notre espèce, globalement, il y a plus de diversité.
Merci. Autre question dans la salle, il y avait une main. Voilà.
peut-être une question qui revient un peu plus sur les humains que sur les animaux. Moi, ça m'intéresserait à voir l'opinion de spécialistes que vous êtes des sciences du vivant pour votre conception sur le comportement humain et quelles conclusions on peut en tirer. Par exemple, si je prends un exemple, polygamie ou monogamie, c'est un grand problème, interreligieux aussi, vu sous l'angle des biologistes. Qu'est-ce que vous en déduisez? Et puis évidemment, tous les aspects bizarres, pas pathogènes, je ne sais pas, mais, ou pathologiques, pardon, mais comme Madame Krauss a expliqué, l'indétermination, est-ce que les bases de l'intersexualité, de la bisexualité, du trans, enfin, de tout ce qu'on découvre avec plus d'intensité pour les non-spécialistes ou les gens d'un certain âge, a des bases aussi parfaitement biologiques? Pas déterminer si c'est un garçon ou une fille dans certains cas, peut-être que...
Alors, que vous expliquez pour la première partie, par exemple, la polygamie, monogamie, dans les différentes espèces
bon, il y a un modèle qui est très connu dans la biologie et c'est vraiment, c'était établi par des études chez les... de Heckenbrown, c'est en France. Anyway, c'est un oiseau, et là on trouve tous les systèmes. Il y a la monogamie, la polygamie et tous. Et ce qu'on. It's Tonnex en anglais.
C'est un oiseau, c'est un accentaire.
Oui.
Un petit oiseau.
Brune. En tout cas, ce qu'on trouve là, c'est que ce qui pousse tout le système, c'est la richesse de l'environnement. Donc, s'il y a beaucoup de la nourriture, les femelles peuvent se distribuer partout. Et comme ça, ça devient très, très difficile pour les mâles pour monopoliser plusieurs femelles. Mais par contre, si la nourriture n'est pas bonne, les femelles peut-être sont assemblées dans plusieurs endroits, et là un mâle peut monopoliser plusieurs femelles, et voilà, on a un système polygamique. Donc la force principale, c'est les femelles cherchent un territoire optimal où il y a beaucoup de nourriture, et le mâle cherche à monopoliser le plus de femelles que possible. Mais il y a aussi des possibilités que, par exemple, une femelle a plusieurs mâles quand ils sont distribués trop. Donc, on trouve les différents systèmes dans une espèce. Et on ne sait pas si on peut appliquer ça chez l'homme, mais peut-être il y a des données qui montrent que dans le passé, les années peut-être 1600, comme ça, où le plus riche un homme, le plus de femmes il y a normalement, où il a fait des enfants avec plus qu'une femme. Donc c'est un peu comme le petit brun oiseau qu'on a étudié. Mais c'est clair chez l'homme, c'est aussi qu'on a toute la variabilité. Chez nous, dans l'Ouest, c'est la monogamie qui est la norme. Mais en Afrique, on trouve polygamie partout, c'est parfaitement normal. Un homme est fier s'il y a plus qu'une femme, et nous avons eu des assistants de terrain et on a augmenté un peu les salaires, et la première chose qu'il a fait, il a acheté une deuxième maison avec une copine. Donc, et c'est parfaitement normal chez eux. Pardon ?
Donnez un micro. Vous disiez alors, oui, alors, mais ce n'est pas permis pour la femme, c'est ça?
Oui, ce n'est pas permis pour la femme, elle ne peut pas avoir plusieurs hommes. Alors on a toujours l'inégalité, ce que je ne trouve pas juste.
Oui, on a...
Non, c'est tout ça. Il y a des sociétés où il y a la polygamie, mais je laisse...
En Tibet, les régions de l'Himalaya, il y a des sociétés où plusieurs mâles, normalement des frères, ils partagent une femme, et c'est le système normal chez eux aussi. Donc ça, on trouve aussi chez l'homme.
Je serais intéressée à connaître quelques informations supplémentaires sur les tabous. C'est un peu l'intitulé de notre café scientifique, parce qu'il y a un tabou notamment qu'on retrouve chez les humains et chez les animaux, c'est l'inceste. Et ça m'a toujours épaté. Comment les animaux, ils arrivent à comprendre qu'il ne faut pas faire l'inceste, parce que bon, bah, nous, c'est quelque chose, c'est interdit même dans la loi, mais eux, je ne sais pas, c'est instinctif. Si vous pouvez parler un petit peu de ça. Et autre chose aussi intéressante, c'est l'homosexualité qu'on retrouve chez les animaux, notamment chez les cygnes. Je me rappelle d'une histoire chez Conrad Lorenz où il parlait de canards, je ne sais plus, qui étaient amoureux. Et, enfin, ouais, c'était assez drôle. Et...
Donc... Pour l'inceste, il y a des exceptions. Donc, ça dépend finalement de la facilité de faire la migration, de la dispersion. Donc, si ce n'est pas trop dangereux de partir, normalement, il y a un sexe qui va partir à l'âge adulte et ça va assurer qu'il n'y a pas un mélange. On connaît aussi des mécanismes qu'on peut sentir si on est apparenté ou s'il y a des autres aspects, comment des animaux arrivent à reconnaître des frères et sœurs. Et en principe, il y a toujours la question, il y a des avantages simplement au niveau génétique de trouver un partenaire qui a un matériel génétique qui est différent. C'est tous pour améliorer la défense contre les parasites. Si on se reproduit en famille, c'est juste le risque que les gènes ils sont trop similaires et on est affaibli dans sa résistance contre des parasites. Donc, c'est surtout, il y a vraiment des avantages de trouver un partenaire avec qui on n'est pas apparenté. Et c'est pour ça, la sélection naturelle, elle va juste trouver des moyens de sélection, des mécanismes qui assurent que, normalement, on trouve un partenaire qui est génétiquement différent. Mais ça, c'est vraiment, on n'a pas besoin de quelque chose de conscient. C'est maintenant juste le mécanisme. Si le mécanisme, c'est tout ce que j'ai vu quand j'étais petit, ce n'est pas un partenaire. On peut bien sûr tricher le système et on échange des œufs et deux poussins, ils agrandissent dans deux différents nids, donc ils ne savent pas qu'ils sont apparentés, donc ça peut arriver, donc ils vont se reproduire. Mais je ne pense pas que c'est conscient dans le sens humain qu'on a vraiment peur de ça. Et on doit aussi dire que les coûts-bénéfices sont un peu différents pour les mâles et femelles. Normalement aussi, chez les animaux, ce sont les femelles qui sont responsables pour le fait qu'ils ne vont pas s'accoupler avec des mâles qui sont des frères ou des pères. Et pour un mâle, c'est, comme ils ont probablement accès à plusieurs femelles s'ils sont forts, ce n'est pas trop grave si avec une femelle, les enfants ne sont pas trop bien en forme. Donc, c'est normalement les femelles qui sont responsables pour la séparation. Pour la homosexualité, ça, c'est plus difficile. La littérature n'est pas très claire. On voit des comportements homosexuels, sans doute, mais normalement, ce sont des mâles qui vont aussi ensemble faire des coalitions pour trouver une femelle et... l'attaquer sans qu'elle vraiment veut s'accoupler avec eux. Donc, c'est des copulations forcées et deux mâles, ils sont plus aptes à réussir qu'un mâle. Ce sont souvent des mâles subordonnés. Donc, il y a quelques chercheurs qui essayent à expliquer des comportements homosexuels comme faire des alliances pour avoir après plus de succès reproducteur. Et il y a des autres qui veulent expliquer ça comme vraiment, non, c'est... ils préfèrent des mâles sur des femelles. Et pour moi, la littérature en ce moment, ce n'est pas très clair. S'il y a vraiment des exemples, comme chez l'humain, qu'il y a vraiment des hommes qui préfèrent des autres hommes, des femmes qui préfèrent des femmes, c'est plus flou chez les animaux, des exemples que je connais.
Compléter ou...
D'une certaine manière, je trouve que ce que notre collègue primatologue disait, c'est-à-dire au fond, ce qui... est vraiment important, c'est la manière dont on pense, les relations entre le système social, ça peut être le cas pour les singes et pas uniquement pour les humains, et les questions sexuelles. Et puis, une des choses qu'on voit, il me semble, apparaître dans les questions, que ce soit au niveau de l'homosexualité, que ce soit au niveau de l'agressivité, que ce soit au niveau de la polygamie ou bien des orgies ou je ne sais pas trop quoi, les comportements, c'est que c'est... comment certains animaux, En particulier, alors, les primates ont un statut très particulier dans la manière dont on va se représenter aussi notre propre passé, nos propres origines, et comment cette origine est intimement liée à deux figures, l'animal, en particulier le primate, et puis aussi la figure du sauvage. Alors là, au niveau de l'histoire de la biologie. Même chose avec la question de l'inceste. Les questions que l'on pose aux animaux sont aussi fondamentalement des questions qui nous concernent. C'est-à-dire qu'on les fait parler en notre nom, ce qui ne veut pas toujours dire qu'on leur fait dire des choses fausses. Mais par contre, c'est toujours des savoirs qui sont situés par rapport à des préoccupations contemporaines, et ces préoccupations, ça peut être aussi lié à des revendications, à des discriminations, des inégalités, etc. Parce que un des enjeux de savoir est-ce que finalement l'homosexualité, c'est aussi quelque chose que l'on retrouve dans la nature, quelle est la question fondamentale, c'est que l'homosexualité chez les humains est une pratique, est une identité qui est discriminée, qui ne donne pas les mêmes droits. Alors après, la biologie, et ça dépend des contextes historiques, ça dépend aussi des pays, peut jouer un rôle complètement opposé. C'est-à-dire qu'elle peut venir complètement ratifier un ordre social, ou alors, au contraire, perturber des perceptions qui nous semble évidente sur ce qui va de soi, sur ce qui doit être aussi. Et c'est pour ça, ça c'est une des choses qui est vraiment très intéressante, c'est que finalement, quand on s'intéresse aux primates peut-être, mais aussi aux amibes, une des questions qui se pose autant aux sciences du vivant qu'aux sciences sociales et humaines lorsqu'on observe des comportements humains, c'est finalement, qu'est-ce qu'on voit ? Pourquoi ce qu'on voit pour être qualifié, par exemple, d'homosexualité chez des animaux. Est-ce qu'on a raison de qualifier comme homosexualité certains comportements aussi chez des humains ? Ça, ce n'est pas des choses qui sont évidentes. Et les résultats entre des études, par exemple, qui ont été faites dans les années 60 par Alfred Kinsey avec sa fameuse échelle sur l'hétérosexualité et l'homosexualité, eh bien, depuis, ont été un peu remis en cause au niveau justement des critères, etc. Sur les fantasmes sexuels, alors comment on fantasme aussi notre propre société à travers la sexualité ? C'est-à-dire, il y a des fantasmes sexuels, on pourrait dire, en tout cas surtout les sciences psychologiques le diraient, mais la sexualité sert à fantasmer la manière dont on se représente, la manière dont on souhaite voir la société, et cette société-là, elle peut aussi justement être fantasmée sur ces animaux très intéressants que sont en particulier les primates, mais aussi les poissons, parce que le fait qu'ils changent, que certains changent de sexe, certains diront, voyez, les poissons, c'est avant les humains, ils étaient déjà trans, ils étaient déjà intersexués, etc. Puis du coup, enfin, c'est très bien, hein, parce qu'un des enjeux justement, c'est de... Est-ce qu'il y a continuité ou il n'y a pas continuité entre de l'amibe à l'humain ? Et puis s'il y a continuité, c'est qui ? C'est quels organismes ? C'est quelles questions qui créent cette continuité ? Ou bien s'il y a discontinuité, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que c'est ? C'est la moralité ? C'est la contraception ? C'est quoi qui fait toutes ces différences ?
Plein de questions lancées comme ça, alors je vais voir si, en rebondissant, si ça génère d'autres questions dans la salle. Alors, tout le monde est en pleine, en profonde réflexion comme ça. Oh, je me permets peut-être une question. Oui, ah, il y a une question, alors parfait. C'est bien comme ça, je peux garder les miennes de côté.
Mais je ne sais pas, là, on parlait d'homosexualité, puis il me venait la question du plaisir. Parce que, est-ce que... On peut parler d'une, on en a parlé beaucoup de reproduction chez les animaux, mais plus d'un point de vue biologique, la nécessité ou quelque chose de voilà de d'utile, d'utilitaire. Mais est-ce qu'il y a une notion de plaisir aussi ?
Les primates, les poissons, les animaux.
Oui, je crois, Redouane a déjà répondu plus ou moins. Ce qu'on trouve, c'est par exemple, chez beaucoup des espèces que...
Je m'excuse, je vous interromps parce que je n'étais pas là au début. Alors, si c'est une répétition, j'écouterai l'enregistrement plutôt que de vous faire répéter. Excusez-moi.
Alors, vous pouvez répéter la question?
Non, c'est-à-dire que je n'étais pas là, les premières 20 minutes. Donc, si vous avez parlé les premières 20 minutes, c'est moi qui m'excuse.
Voilà, non, le problème de plaisir, c'est intéressant. Et je crois que c'est vous qui avez demandé ça. Et c'est difficile de décider parce qu'on ne peut pas parler avec les animaux. Mais ce qu'on trouve, c'est que c'est la sexualité. Et normalement, c'est une chose qui attire les individus. Ils sont intéressés, ils cherchent ça. Donc, la conclusion, c'est que ça doit être une expérience positive, normalement. Mais aussi, il y a des autres exemples. Par exemple, chez les orang-outans, il y a des études qui ont montré clairement qu'il y a des cas où les femelles ne sont pas du tout intéressées, mais les mâles, quand même, forcent la copulation, et on peut appeler ça une viol, si vous voulez. Donc il y a les deux extrêmes partout. Souvent, les femelles ne veulent pas copuler avec une certaine mâle, mais avec un autre. Donc ils sont sélectifs et tout ça. Et donc je crois, si vous avez des animaux un peu plus complexes, on trouve ces décisions individuelles qui sont basées sur ce comportement.
Du coup, les mâles sont obligés de frimer, d'acheter des grosses voitures aussi. Ou ce genre de comportement existe aussi chez les primates? Les voitures, peut-être.
Bon, il y a normalement chez les mâles, il y a une hiérarchie. Et les mâles qui sont les plus hauts dans l'hiérarchie, normalement, ils sont plus de succès avec les femelles. Il n'y a plus de copulation chez ces mâles par rapport à les mâles jeunes et tout ça. Et normalement, les jeunes mâles, ils cherchent des autres stratégies, donc ils suivent les femelles peut-être pour copuler quand il n'y a personne qui se voit et tout ça. Donc c'est un peu ça qu'on observe.
Mais autrement, il y a plein d'exemples où les mâles doivent faire des choses pour impressionner la femelle. Donc, généralement, je dis à mes étudiants, si vous voyez un animal qui se comporte d'une manière vraiment bête, c'est normalement un mâle qui cherche une femelle. Et si on prend maintenant le chant des oiseaux ou la danse de différents oiseaux qui dansent pour la femelle, ou il y a des oiseaux en Australie qui construisent des maisons de cette taille-là et la femelle fait l'inspection de la maison, et il y a des fleurs devant et des autres jolies choses, et tout ça pour, si elle trouve ça joli, elle offre la copulation, après elle va partir, construire son propre nid et s'occuper des jeunes. Donc tout ça, c'est seulement pour attirer la femelle et pour rien d'autre. Donc il y a plein d'exemples chez les animaux que les mâles doivent faire des bêtises.
Autre question? Oui.
Donc, par rapport à, je ne sais pas qui avait posé une question sur l'homosexualité, je voulais juste signaler un lien d'un article que j'ai lu récemment qui s'appelle « Can Animals Be Gay ?» est paru sur le New York Times, et c'est à propos d'une chercheuse américaine, Lindsay Young, qui a étudié l'homosexualité. Enfin, elle n'a pas étudié l'homosexualité, elle étudie les albatros. Et elle a découvert, un peu par hasard aussi, comme disait le professeur Mitchell au début, certaines choses parfois naissent un peu par hasard, souvent donc, des couples de femelles chez les albatros. Et donc les albatros vivent longtemps, donc 60 ans ou plus. Et enfin, ça, vous pouvez me corriger, mais en tout cas, ils vivent longtemps. Et donc, année après année, ils ont pu contrôler qu'effectivement, ce sont des couples stables, disons, qui se retrouvent année après année. En tout cas, vous pouvez trouver ça en Internet.
Merci pour cette remarque. Je profite juste du moment pour remercier le professeur Bchari qui doit nous quitter pour les raisons de train. Le remercier pour sa participation.
Je m'excuse. Non, je m'excuse, mais j'ai un workshop demain et après-demain et il y a des invités qui arrivent maintenant et je dois les chercher à la gare, donc c'est pour ça que je quitte un peu tôt. Mais merci pour être venu.
Eh bien, merci, on peut l'applaudir, merci. Et concernant votre remarque, je crois que Madame Kras voulait...
Oui, juste sur la question des arguments biologiques concernant l'homosexualité, plusieurs précisions. La première, c'est que dans le contexte américain, les arguments biologiques ont toujours été associés, ou souvent, disons, ce qui est moins systématique en Europe, à des arguments pro-diversité, à des arguments antidiscriminatoires. Ce qui n'est pas une évidence, premièrement. Deuxièmement, c'est très intéressant aussi parce qu'il y a homosexualité et homosexualité. L'homosexualité, ça peut être la promiscuité sexuelle, hein, c'est-à-dire c'est les gays de l'époque du sida, ou alors on a justement l'homosexualité post-sida des couples de lesbiennes. Hein. Ça veut dire l'homosexualité, mais sur la longue durée. C'est-à-dire des couples, elles restent ensemble, monogames, voilà. Et ça, c'est extrêmement intéressant aussi parce que ça reflète, pour une part, évidemment, ce serait beaucoup trop simple de dire, ça reflète simplement une nouvelle image, une certaine version valorisée, c'est-à-dire finalement très normalisée, qui est liée à la question du mariage gay. C'est-à-dire que si on peut faire une association. Donc ça c'est le deuxième point. Et puis l'autre chose aussi, c'est que dans l'histoire de la biologie, l'homosexualité a constitué une énigme. Elle a constitué une énigme. Pourquoi ? Parce que en lien avec une certaine conception de ce qu'est un mâle, ce que fait un mâle, de ce qu'est une femelle, ce que fait une femelle, et au fond comment marche l'évolution et la question de la sélection avec cette idée qu'il est avantageux. Alors après, des fois c'est en conflit, avantageux pour qui ? Pour l'espèce ou pour l'organisme ? Mais il y a quand même cette idée de base qui est que, voilà, il y a plusieurs organismes en compétition et puis l'idée c'est d'optimiser un maximum la transmission, voilà, de ses propres gènes. Alors, voilà, différentes stratégies étaient expliquées par rapport à ce noyau central de la théorie de l'évolution. Et du coup, des individus qui, en gros, ne cherchent pas à transmettre leur patrimoine génétique ou leur matériel génétique, c'est une énigme du point de vue de la théorie de l'évolution. Alors après, il y a des explications qui sont venues intégrer à la théorie alors là, en l'occurrence, darwinienne, mais qui est une théorie de la compétition, pour une part, même si, en relisant les textes de Darwin, vous verrez l'idée d'un mâle qui est... ça y va, compétitif, enfin, etc. C'est quelque chose qu'il a beaucoup discuté dans ses propres textes aussi. Mais alors, du coup, l'homosexualité fournissait des avantages, non pas au niveau de l'individu, mais au niveau de l'espèce, en s'occupant des petits et en favorisant la transmission du matériel génétique à un niveau proche. Donc ça c'était aussi un autre niveau. Voilà, ça c'est le troisième point des relations entre homosexuels.
Des explications, mais ouais. Je pense qu'il y en a plusieurs.
Alors, ce que j'essaie juste de montrer, c'est que c'est de rétablir certains liens qu'on a tendance à oublier lorsqu'on pose la question, est-ce que l'homosexualité, on la trouve dans la nature ? Oui, d'une certaine façon. Mais qu'est-ce qu'on voit ? Pourquoi on y voit ? Pourquoi c'est d'abord une question, par exemple, qui est intéressante pour des biologistes ? Justement parce que c'est quelque chose qu'on n'arrive pas entièrement à expliquer au départ avec cette théorie qui est centrée sur la reproduction sexuée avec l'idée de pouvoir capitaliser son matériel génétique.
Merci. Une autre question. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un tout à l'heure qui voulait poser une question. Oui, c'était là-bas au fond.
J'aurais une question ce qui concerne plutôt le comportement, car chez le genre humain, on observe par exemple dans les relations sexuelles la pudeur. Est-ce que c'est un comportement typiquement humain, ou bien est-ce qu'on retrouve ce type de comportement chez d'autres espèces animales ?
Alors, les amibes sont-elles pudiques ? Les primates ? Deux avis ?
J'ai pas vraiment compris le comportement que vous... vous pouvez répéter, s'il vous plaît ?
Alors, chez les humains, on observe de manière générale une certaine pudeur dans les relations sexuelles. Est-ce que ce comportement est observable chez certaines espèces animales ?
Je crois que c'est un problème de langue. Sorry ?
Est-ce que quelqu'un arrive à traduire pudeur en allemand ?
Pudeur. Yeah, c'est le mot que je ne comprends pas.
What's
a modesty. All right, okay, right, okay, modesty.
Le prochain café scientifique sera sur le bilinguisme. Je vais le laisser comme ça glisse.
Ça va aller, un jour. C'est vraiment trop difficile de répondre directement parce qu'on peut vraiment communiquer avec les animaux comme ça. Mais on a des observations. Et chez les chimpanzés, par exemple, par exemple, les femelles, quand ils font des copulations avec les mâles, normalement, ils poussent des cris de copulation, un peu comme les femelles chez l'homme, mais pas toujours. Et par exemple, ce qu'on a trouvé, si une femelle est dans une région où il y a beaucoup d'autres femelles, normalement, elle donne pas les cris de copulation, elle supprime ça. Et aussi, si elle se couple avec un mâle d'un rang bas, normalement, il ne crie pas du tout. Donc, si vous voulez prendre ça comme évidence de ce mot que j'ai déjà oublié.
La pudeur.
Chande ou charme? Chande. Oh, right, ok. Oui, peut-être c'est un peu similaire. C'est clair que les femelles changent le comportement dans des différents contextes sociaux, ça c'est sûr. C'est pas seulement la copulation qui compte, c'est aussi qui est proche et qui est le partenaire et tout ça. Donc il y a ce type d'influence, mais comment vous voulez interpréter ça, c'est vraiment très très difficile.
Merci quand même.
Oui.
J'ai souvent entendu dire que la façon dont une des différences qu'on mettait en avant entre les êtres humains et les animaux, c'est que les êtres humains s'accouplaient en dehors de la période de fertilité de la femme. Est-ce que ça, c'est encore valide ? Alors, je ne sais pas si les amibes ont des périodes de chaleur. Est-ce qu'il faut garder cette distinction, peut-être en la ramenant aux mammifères ? Enfin, la première question, ça serait, est-ce que cette distinction est valide ? Est-ce qu'il faut la ramener à un cercle plus restreint qui serait peut-être celui des mammifères ? Et si cette distinction n'est plus valide, est-ce qu'il y a d'autres choses dont on pourrait dire qu'elles distinguent fondamentalement la sexualité humaine de celle des autres animaux ? Ou alors peut-être pas ?
Alors, peut-être, commençons avec les amibes.
Alors, amibes ou je dirais organismes microscopiques ou peu connus en général, on a bien sûr pas les cycles qu'on connaît chez l'espèce humaine. Mais par contre, une chose qu'on observe assez souvent, c'est que chez les organismes notamment qui ont à la fois des cycles asexués et des cycles sexués, il y a un déterminisme environnemental souvent qui fait que quand les conditions environnementales se détériorent, certains organismes deviennent sexués. C'est-à-dire que quand les conditions sont favorables, la reproduction asexuée est tout à fait performante, mais arrivée la mauvaise saison, les phénomènes de reproduction sexuée s'enclenchent. C'est le cas notamment chez les pucerons.
Merci. Et peut-être pour les...
C'est peut-être le problème de ménopause, non ? Pourquoi chez l'homme ? C'est ça que vous êtes ça ?
Hors du cycle menstruel, ou une fois la ménopause passée, le fait que l'homme continue à pratiquer une sexualité, oui. Hors de de toute utilité reproductive.
Oui, je crois l'histoire pour le moment, c'est que la ménopause est une chose qu'on trouve uniquement chez l'homme. Et il y a une théorie qui dit que ça donne une nouvelle fonction aux femmes, la fonction de la grand-mère, qui joue un rôle très important dans les familles nucléaires chez l'homme. Elle contribue beaucoup pour la reproduction de ses enfants. Et chez les chimpanzés, même les femelles plus âgées, elles cyclent encore. Mais c'est pas vraiment... C'est possible qu'on a fait des erreurs, on n'a pas fait des recherches systématiquement chez les différents groupes, donc peut-être ça va changer dans le futur. Mais pour le moment, l'histoire est que les chimpanzés continuent de reproduire jusqu'à la fin.
Donc pour autant qu'on sache, la ménopause est un phénomène strictement humain.
C'est ce que je crois, ouais. Oui.
Mais est-ce que c'est possible simplement que les autres animaux ne vivent pas assez longtemps, enfin qu'on est le seul humain?
Il y en a des femelles chez nous qui sont presque 50 ans, donc c'est 50, plus que 50 ans. Donc pour une femme, c'est normalement la période de la ménopause.
Merci. Est-ce que quelqu'un encore, je vois que le temps avance, est-ce que quelqu'un a encore une question dans la salle? Oui.
Oui, puisque l'occasion est donnée, me permet une deuxième question. J'essaie toujours, en vous écoutant et en lisant un peu les biologistes comme Axel Kahn ou d'autres, le peu que j'en sais, de faire le lien entre les animaux et la biologie et l'être humain. Alors, par exemple, j'étais intéressé par la question de monsieur derrière sur l'histoire de la pudeur. On peut multiplier les exemples, la pédophilie ou la virginité, qui joue un rôle très important dans beaucoup de sociétés, il n'y a pas si longtemps, encore même dans les nôtres. Est-ce que tout cela se justifie uniquement par des normes morales ou sociales? C'est un peu une question que je pose à vous. Et en tout cas, je ne les vois pas être justifiées sur la base de critères purement biologiques. Voilà ma question.
Je ne suis pas sûre d'avoir compris votre question, à vrai dire.
C'était peut-être pas très bien formulé, mais est-ce que la virginité, le tabou de la virginité qu'on a parlé avant, par exemple, du tabou de l'inceste, c'est quelque chose qui n'existe probablement pas, ou alors je pose la question, dans l'ordre animal? Et pourtant, c'est très important dans beaucoup de sociétés humaines. Donc, d'où vient cela? En tout cas pas sur la... Peut-être pas sur des bases biologiques, mais sur de toutes autres bases, morales, sociales, que sais-je.
Mais disons, je suis bien incapable de répondre à votre question si la question c'est est-ce qu'il y a une base biologique à des valeurs telles que la virginité ou la pudeur. Parce que justement, enfin, de la perspective dans laquelle je travaille, je m'intéresserai plutôt aux raisons pour lesquelles il fait sens aujourd'hui de poser une question comme celle-là. En effet, comme celle de monsieur tout à l'heure sur la question est-ce que finalement on retrouve des comportements que l'on qualifie, est-ce qu'on retrouve la pudeur chez des animaux, etc. Toutes ces questions-là, elles ont une validité aujourd'hui parce que dans la manière dont on investit les savoirs biologiques, on les investit de beaucoup de choses et, alors là, je répète ce que je disais tout à l'heure, mais on les investit des origines, de nos origines comme êtres humains, c'est-à-dire d'un passage de l'animal à, enfin, ça c'est notre histoire au niveau de l'évolution. Donc on investit le monde du vivant et certains organismes, ou plutôt une manière dont certains organismes s'enchaînent, hein, ou font sens l'un par rapport à l'autre. Et c'est pour ça qu'on a tendance à aller chaque fois chercher du côté de la biologie ou du côté de certains organismes, de certaines sociétés animales, des réponses à nos questions. Mais disons, c'est bien parce qu'il y a eu cet investissement préalable où on attend de certains organismes, de certains animaux, de venir signifier de venir donner du sens, mais un sens très, très profond, parce que c'est l'histoire de nos origines, à la fois commune avec d'autres organismes, mais aussi comme être, entre guillemets, spécial. Qu'est-ce qui fait notre humanité ? Qu'est-ce qui fait la relative spécificité de nos sociétés ? C'est une question qu'on est amené à se reposer sans cesse, aussi parce qu'évidemment, il y a des enjeux, il y a des questions qui se posent au niveau de droit, d'acceptabilité aussi, de changement de normes, de façon dont les sociétés ont justement de gérer ce qui passe pour des différences, mais aussi des inégalités, et puis de le faire en mobilisant un certain nombre de savoirs. Alors voilà, c'est un petit peu insatisfaisant, parce que je pense qu'il faut s'interroger d'abord sur la question, parce que la réponse, au fond, on peut pas la donner sans penser pourquoi on investit tellement de choses dans ces savoirs biologiques, qui sont des savoirs tout à fait passionnants, je tiens à le dire. Et puis, mais évidemment, il faut reconstituer un tout petit peu pourquoi à la biologie on adresse telle ou telle question, pourquoi certains autres savoirs nous semblent plus pertinents pour comprendre d'autres aspects, peut-être, de notre société ou de qu'est-ce que ça veut dire vivre en société.
Merci. Vous vouliez ajouter quelque chose ou...
Peut-être seulement un petit point. Je crois ce que vous touchez, c'est la question de la culture, parce que chez nous, nous avons des normes culturelles et l'inceste et tout ça, c'est une des choses qui tout le monde est d'accord, et tout ça nous définit. Et la recherche chez les animaux sur la question de culture a trouvé qu'il y a des exemples de traditions, mais c'est normalement au niveau de la technologie. Donc, par exemple, les chimpanzés, ils savent un problème avec des utiles d'une manière ou autre, et c'est typique pour un groupe qui est différent d'un autre groupe et tout ça. Mais ce qu'on ne trouve pas vraiment, c'est culture dans le sens des normes sociales. Donc, moi, j'ai l'impression que les animaux ne sont pas capables de ce niveau de culture. Ça reste dans un niveau moins cognitif, un niveau pour résoudre des problèmes techniques, normalement. Et comme ça, je pense qu'on ne peut pas vraiment parler d'un tabou ou d'inceste chez les animaux, parce qu'ils ne sont pas capables de ce type de culture.
Merci, en tout cas, merci pour votre réponse. Alors, peut-être pour qu'on arrive au terme du temps qui nous était à peu près imparti, repasser la parole au professeur Mitchell pour peut-être un mot de conclusion. Alors, est-ce qu'on a cette réponse ? Est-ce qu'on fait l'amour comme des bêtes, ou est-ce que c'est parce qu'on manque de repères qu'on va chercher dans les amibes les réponses à nos questions existentielles ?
Bon, on peut répondre évidemment de plusieurs manières à cette question. La première, c'est que nous sommes des bêtes, donc forcément qu'on fait l'amour comme des bêtes. Après, je pense qu'on a discuté passablement de cas. Aujourd'hui, en recherchant dans la littérature, en observant simplement le monde animal, on se rend compte que finalement, on n'a peut-être pas inventé grand-chose. Mais peut-être qu'une des différences fondamentales, c'est, je pense que, je ne suis pas sociologue, mais je dirais que peut-être que par rapport à ces questions de virginité, une des différences fondamentales, c'est quand même la capacité d'abstraction qui peut-être nous permet ou a permis à notre espèce d'élaborer justement des comportements, des règles de société que les animaux ne sont pas capables d'élaborer. Alors, je ne sais pas, peut-être que je dis des grosses bêtises parce que je ne suis pas dans mon domaine, mais peut-être que ma collègue pourra confirmer ou infirmer.
Vous voulez confirmer ou infirmer, ou on laisse la question ouverte ?
Disons, il y a rapidement, c'est à la fois, on pourrait dire, on peut on peut projeter des questions de société d'un certain temps sur les sociétés animales, puis comme par hasard, les animaux font un peu ce que font les humains. Alors ça, c'est une première chose. Et puis l'autre chose aussi, c'est qu'il faut apprendre. Enfin, les animaux font aussi toutes sortes de choses intéressantes Et ce n'est pas toujours évident de bien pouvoir voir ce qui se joue dans les relations, parce que ben, les primatologues sont très bien placés par rapport à toutes ces thématiques. On a vu dans des comportements de différentes espèces de singes la preuve, entre guillemets, je ne sais pas moi, de tendances extrêmement agressives. On a lu la société à la lumière de comportements de dominance, essentiellement. Après, sont venues, alors dans l'histoire de la primatologie, notamment certaines femmes primatologues américaines, qui sont allées aussi sur le terrain, mais ça, j'imagine que vous connaissez encore mieux. Et puis, tout à coup, elles ont aussi mis en évidence d'autres formes de relations entre les individus d'un même groupe, c'est-à-dire toutes sortes de stratégies d'alliance, plus ou moins sur longue durée, des logiques intergroupes et des logiques intragroupes, l'agressivité étant plutôt entre groupes qu'au sein même de groupes, des comportements de mâles, y compris de mâles qui étaient identifiés comme dominants au départ, avec toutes sortes de moments où, en gros, ils ne sont pas très agressifs, ils suivent un peu, par exemple, en ce qui concerne l'accès aux ressources de la nourriture. Après, ça dépend vraiment des espèces.
Eh bien, merci pour ces paroles de conclusion. Je crois qu'on va en rester là. Merci à tous. Le professeur Chari, qui est déjà parti, professeur Zuber-Müller, professeur Mitchell et madame Cynthia Kraus d'être venus discuter de tout ça avec nous. J'espère que vous aurez une vision un peu différente des amibes dans l'avenir. Je vous rappelle encore le prochain café scientifique qui aura lieu, je ne sais plus à quelle date, mais avec José Ribaud qui va parler de plurilinguisme en Suisse. Est-ce que le plurilinguisme, le titre de son livre, c'est « Le plurilinguisme Foulcan, sauf erreur ». Ah, il est là, il est ici, c'est « La Suisse plurilingue se déglingue » le 23 mai, ici même. À la même heure à 18h. Merci à tous et bonne soirée.